marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Le moment Giscard, un si jeune président.
19h59.
J'ai juste un mot, je suis en train de regarder la télé, je suis obligé de regarder maintenant le jour, je te rappelle tout à l'heure. Attends, je regarde, je te rappelle.
Je crois que quel que soit l'élu, avec une
bon, alors ça, ils ont donné comme chiffre de la Sofres, c'est-à-dire 50,9, 49,1. Hein? Très bien. Bien. Mais écoute, je t'appelle à 8h30. Hein.
Héritier de deux lignées privilégiées, il était né coiffé, mais il s'était donné, avant d'être élu président à 48 ans, on a entendu un extrait du documentaire de Depardon, il s'était donné un visage singulier. Il était parlementariste, mais il avait adopté les codes de la Ve République. Ministre du général de Gaulle, il était néanmoins resté libéral. Plutôt que de la grandeur de la France, il préférait parler de son rayonnement. Et il s'était vite persuadé que celui-ci passait par l'Europe communautaire. Il avait le sens des opportunités, en témoigne son échappée dans la course présidentielle après la mort de Georges Pompidou. Mais c'était bien mieux qu'un pragmatique. Il annonçait un projet, il affichait une foi raisonnée. Il n'est pas impossible de moderniser la France, répète-t-il encore. Il faut le faire dans le calme. Le début de son septennat surprit beaucoup par son train de réforme à ce point entré dans les mœurs qu'on a oublié qu'elles lui sont dues. Du droit de vote à 18 ans à l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Mais dans la bataille de la dépénalisation de l'IVG, il marqua le but contre son propre camp. Jacques Chirac et ses compagnons finirent par faire dissidence sans que l'opposition de gauche ne le rejoigne dans son souci d'une démocratie apaisée. Le deuxième choc pétrolier, ses conséquences l'obligèrent à slalomer de plus en plus serré et il finit par perdre le championnat. Depuis, la giscardisation est un phénomène que les hommes politiques les plus brillants redoutent comme l'ouragan. Après 1981, on sait que Giscard s'est remis en selle, mais pour finir par deux échecs. En 2004, la perte de la présidence de sa chère région, alors qu'il croyait avoir une Auvergne d'avance. En 2005, le référendum sur le projet de constitution européenne. Il n'est sans doute pas loin de penser qu'une malédiction s'acharne sur lui. « Je devrais écrire un dictionnaire amoureux de l'ingratitude », a-t-il déclaré souvent. Le moment Giscard ne mérite-t-il pas une requalification ?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Biographe qui fait autorité, qui a publié nombre de vies d'importants personnages de la Ve République. Vous avez vu le Figaro, vous avez le Figaro dans votre poche là. Le 4 octobre, sondage. Selon vous, le meilleur président de ces 40 dernières années, on met donc hors concours le général de Gaulle, serait François Mitterrand, 31. Jacques Chirac. Vous diriez 26. Vous hésitiez, vous auriez mis moins. Nicolas Sarkozy, 14. François Hollande,
oui.
4. Et Giscard d'Estaing, seulement 13.
Oui, mais il y a d'autres sondages un peu antérieurs qui montrent qu'il y a une majorité importante qui pense que Valéry Giscard d'Estaing a été, de l'ordre de 60%, a été, plus de 60% même, a été un bon président. Le problème de Giscard, c'est que les réformes qu'il a faites, vous l'avez dit, paraissaient tellement dans l'ordre des choses naturelles qu'on a fini par oublier qu'on lui devait. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il a eu le courage de faire campagne en 1974, notamment sur l'IVG.
C'était en pas, annonçant c'était pas, le projet.
On parle de la... C'est sûr que Simone Veil a eu le grand mérite de défendre ce projet devant le Parlement, comme on sait, mais la responsabilité politique, c'est Giscard qui l'a assumé.
Donc il faut restaurer le rôle de Giscard d'Estaing, dites-vous dans votre biographie aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes un biographe qui fait autorité. Là, vous avez été, dit François-Guillaume Lorrain dans Le Point... Vous avez fait une biographie accompagnée.
Alors accompagnée, ça ne veut pas dire autorisée. Je tiens à dissiper tout ce point, parce que une biographie autorisée, c'est une biographie dans laquelle le personnage dont on parle a demandé un droit de regard. Alors, le Valéry Giscard d'Estaing ne demandait aucun droit de regard, et même les nombreux passages d'entretiens que j'ai reproduits dans le livre n'ont pas fait l'objet de sa part de la moindre relecture. Il n'a eu le livre quand il est sorti et pas avant. Il ne l'a absolument pas demandé.
L'avantage d'être accompagné, c'est que ça vous permet d'avoir de nombreux entretiens avec lui, voilà, et ça. De vous voir confier pas mal de documents.
Voilà, si vous voulez, il y a un précédent un petit peu, ça ressemble peut-être un peu à l'entreprise de Jean Lacouture quand il avait fait son livre avec Mendès France. Il y avait une assez grande proximité entre eux, et donc il avait bénéficié du témoignage de Pierre Mendès France, qui était évidemment une pièce essentielle. Et moi, ça a été peut-être un peu la même chose avec Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il était, j'ai fait ce livre à une époque où il était très, très disponible et très alerte d'esprit aussi.
Sur la période que nous allons observer, on va se borner à 65-77, et sur les 3 ou 4 nœuds qu'on aura choisis, on attend de vous donc que vous apportiez ce qu'il y a de neuf dans votre biographie. Parce que moi, je vais dire ce que chacun sait. Ministre du général de Gaulle, ministre des Finances. Il est ministre parce que de Gaulle aime les gens qui ont des compétences. Il est ministre très jeune aussi, à 36 ans. Et il fait l'admiration par sa virtuosité dans l'exercice des chiffres, jusque chez les accordéonistes, notamment les accordéonistes très liés à l'Auvergne, comme André Verschuren.
Savez-vous de combien la production industrielle française a augmenté depuis le début du plan de stabilisation? De combien?
D'à peu près, je pense, 12%.
À peu près. Donc, pendant la période du plan de stabilisation, que les gens considèrent comme étant une période de stagnation, la production française a augmenté, disons, de 10 à 12%. Et les chiffres d'augmentation de notre production intérieure brute en 64 sera probablement supérieur à 6% à des plans de stabilisation. Et en 1965, elle sera supérieure à 3%. Donc, au total, pour les 2 années de stabilisation, le produit français aura augmenté d'un peu plus de 4,5% en moyenne.
Chanson, la Giscardenne, l'Auvergne est avec nous. De notre Madeleine, on refusa du trou. Mais d'abord, mes frères, en cœur, travaillons bien. Plus nous ferons d'affaires, plus beau sera demain. Achetons peu, exportons tout. C'est le commerce qui le veut. Donnons un peu, donnons beaucoup. D'autres que nous font encore mieux.
Achetons peu, exportons beaucoup. C'est un des credos qu'a repris André Verschuren du langage du ministre Giscard d'Estaing. Je parlais de compétences. De Gaulle aimait bien la compétence. Il déléguait beaucoup.
Oui, il déléguait, et surtout dans des domaines qui ne lui étaient pas familiers et pour lesquels il avait peu d'appétence, qui était le cas des finances. Valéry Giscard d'Estaing raconte ses rapports avec le général. Il le voyait chaque semaine pour un entretien un peu rituel. Le général l'accueillait toujours avec beaucoup de courtoisie, le raccompagnait à la porte de son bureau. Enfin, et puis il l'écoutait. Mais, ajoute Valéry Giscard d'Estaing, il l'écoutait avec application, mais un ennui visible. Parce qu'il se disait qu'il fallait qu'il l'écoute. Mais voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce plan de stabilisation qui est évoqué et autour duquel il fait tourner les chiffres?
C'est un plan de stabilisation qui intervient à une époque, alors que Georges Pompidou vient d'arriver à Matignon, enfin il est là depuis quelques mois, on s'aperçoit que l'inflation commence à devenir un problème relativement grave. Donc le général, qui encore une fois n'est pas du tout un spécialiste des finances publiques, mais enfin il aime l'ordre et l'inflation ça lui déplaît. Donc il sonne le tocsin, il rappelle tout le monde d'ailleurs pendant les vacances, tout le monde revient de Saint-Tropez ou de... Et on met en œuvre un plan pour faire retomber...
Vous ne voulez pas parler d'austérité, mais l'opposition parle d'austérité.
Oui, on a parlé d'austérité.
Le plan, il est discuté. Georges Pompidou, il pencherait peut-être plutôt du côté du patronat qui, lui, veut poursuivre la croissance. Vous insistez sur le fait que le patronat et Giscard d'Estaing ne s'entendent pas toujours.
Non, il a des rapports, c'est un peu paradoxal, puisque c'est quelqu'un qui est issu d'un d'un milieu qui ne le prédisposait pas, disons, à entrer en conflit avec la, avec le patronat. Il a toujours eu des liens, des rapports très, très difficiles, parce qu'il passait, aux yeux du patronat, pour quelqu'un finalement d'assez dirigiste, alors qu'il se voulait libéral. Il faut dire que ce plan de stabilisation, c'est quand même la volonté du général. Pompidou, comme vous l'avez dit, était assez réservé, parce qu'il trouvait son passé de banquier l'incitait à penser qu'un petit peu d'inflation ne pouvait être mauvais. Giscard, lui, était plus, il était un peu entre les deux, et il trouvait que ils étaient tous dépendants du général, qui était, qui avait des conseillers financiers, qui eux avaient des idées très, très précises. Donc,
tous dépendants du général, mais Éric Roussel, votre livre apporte quand même pas mal d'éclairage sur la distance que prend peu à peu Valéry Giscard d'Estaing, qui ne veut plus obéir. Alors, la distance, elle porte sur quoi?
D'abord, il faut rappeler que au début de 1966, Valéry Giscard d'Estaing, qui occupe le ministère des Finances depuis de nombreuses années, est, il faut bien dire, exclu du gouvernement. Et là, c'est quelque chose, je crois, d'assez nouveau. Parce que moi, j'avais tendance à penser, comme beaucoup, que dans cette affaire, c'était le différend que Valéry Giscard d'Estaing avait pu avoir avec Georges Pompidou, qui avait joué. Et il m'a dit non, ça a joué, mais au fond, le problème, c'est que le général voulait que Michel Debray revienne aux finances, et Michel Debray voulait absolument le ministère des Finances. Donc on va
C'est bien au-delà que l'écart se creuse.
Mais il n'y aurait pas eu cet épisode, il n'y aurait sans doute pas eu les épisodes suivants, c'est-à-dire la cassure que vous évoquez.
Et la cassure, elle porte aussi sur l'Europe, parce que De Gaulle parle de grandeur, Giscard d'Estaing, insistez-vous, parle de rayonnement, le rôle mondial de la France, si elle doit en avoir un, ça passe par l'Europe.
Oui, il y a une différence, non pas complètement de... On a présenté souvent Valéry Giscard d'Estaing comme quelqu'un qui aurait été un adepte éperdu de la supranationalité. C'est faux. Il se situe sur le terrain européen, à mi-chemin, finalement, des conceptions de De Gaulle et de Jean Monnet. Et on le verra d'ailleurs quand il mettra en œuvre le Conseil européen, puisque c'est lui qui l'a créé, qui est un organisme en fait intergouvernemental que Monnet d'ailleurs avait approuvé. Donc c'est voilà. Donc il y a des, si vous voulez, il n'est pas complètement sur une ligne différente du général sur l'Europe, à ceci près quand même qu'il est beaucoup, qu'il croit beaucoup plus à l'Europe que De Gaulle, et qu'il fait preuve de beaucoup plus de dynamisme dans son... cette exclusion du gouvernement arrive à un moment où le général justement s'éloigne finalement de ses objectifs européens. Il a accepté le marché commun que la 4e République avait fait, qu'il avait dénoncé, finalement il l'a accepté, il l'a rendu possible, parce que c'est la vérité. Mais après, bon, il y a eu le plan Fouché dont De Gaulle s'est vite consolé. Puis une certaine façon, si vous voulez, de mener, ce qui a beaucoup compté dans ce différend, c'est la façon du général d'envisager son rôle de plus en plus. Enfin, ses coups d'éclat, vive le Québec libre, le
Giscard d'Estaing voulait être plus de calme.
Voilà, il trouvait qu'on dramatisait trop, au fond.
Premier nœud, l'éloignement avec le général de Gaulle. 1969, il passe son tour, Georges Pompidou devient président, il est le ministre des Finances de Georges Pompidou. Quand Georges Pompidou meurt, il a le sens de l'opportunité, il part en échappée avec une toute petite équipe, des chevaux légers, mais des gens qui ont de l'expérience politique et qui sont compétents. Et le voici en campagne, toujours dans le film de Depardon.
Comme je ne suis pas sûr que chacun ici, même sur la tribune, en connaisse exactement les paroles, je vais vous les rappeler. C'est ceci. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure. Oui, l'heure du combat. Tremblez, ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil.
Alors voilà un homme qui appartient à la classe privilégiée, qui reprend le langage de la Révolution française et celui de la souveraineté du peuple, mais en essayant d'insister, il faut prendre les mots au pied de la lettre, sur le rôle de la liberté. Alors, quand vous étudiez la première période du septennat, Éric Roussel, que vous dites exceptionnelle, vous insistez sur l'extension des libertés.
Oui, et ça, ça vient de, au fond, de, j'allais dire, de l'ADN de Valéry Giscard d'Estaing. C'est quelque chose qu'il a hérité de du milieu, en fait, où il est né, et notamment de la branche maternelle, puisqu'il a un ancêtre, Agénor Bardoux, qui a été un des fondateurs de la Troisième République et qui était un grand parlementaire. Et Valéry Giscard d'Estaing, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne distingue pas, est très marqué par ça. Il est très attaché il se définit comme un parlementariste. Qui a accepté la Constitution de 58, les codes de la Ve République, mais qui a toujours pensé d'abord qu'il fallait deux assemblées. C'est ce qui a fait qu'il a désapprouvé le référendum de 1969. Ça a beaucoup compté dans son esprit. Et il pense que les droits du Parlement sont importants. Et quand il va, dès qu'il est élu, il va s'employer à les élargir en permettant à plusieurs membres du Parlement de saisir le Conseil constitutionnel, ce qui jusqu'alors était le privilège du président de la République, des présidents des assemblées. Donc ça, c'est une réforme très importante, puisque ça a changé la configuration du Conseil, la perception en tout cas du Conseil constitutionnel. Et puis un certain nombre de réformes annexes, les questions d'actualité, etc. Enfin, l'idée était que l'opposition, qui jusque-là évidemment n'était pas beaucoup le général de Gaulle et même Pompidou, n'avait pas beaucoup de dialogue avec l'opposition. Enfin, on peut même dire qu'il n'en avait pas. Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait l'idée d'avoir des rapports plus normaux. Et ça se couplait évidemment avec l'idée aussi de rallier un certain nombre d'éléments venus de la gauche modérée.
Pour faire une France où deux Français sur trois, oui, dira-t-il, dans démocratie française, pourraient être d'accord. Alors, vous insistez bien sur la contradiction qui gît au milieu de ce grand projet. Un traditionnaliste qui veut conduire des changements. Un homme qui se targue d'appartenir à l'aristocratie et qui, en même temps, au nom de son éducation catholique, croit à l'égale dignité entre les hommes, et qui s'en va serrer la main des prisonniers, qui reçoit des éboueurs, et qui s'invite, on a retenu cette image, chez de simples Français, pour dîner, et...
Ce soir, j'attendais Valérie, il n'a pas frappé chez moi, donc je reste avec mes chandelles, puis Valérie ne viendra pas, Valérie, c'est mon idole, c'est mon vertu reine à moi, même qu'il est trop bien pour moi, comme dit son ami Quaponia. Ce soir j'attendais Valérie, c'est pas soir qui m'expliquera comment je vais payer mon terme. Valérie ne viendra pas tabac.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Une biographie de Valéry Giscard d'Estaing, si jeune président, par Éric Roussel aux éditions de l'Observatoire. Vous avez parlé avec lui au fond de cette manière peut-être maladroite qu'il a eu de vouloir provoquer l'empathie et qui est revenue en boomerang.
Oui, il m'en a parlé absolument sans problème. Il avait conscience d'être issu d'un milieu très privilégié, on peut pas le nier, et il avait conscience du fait que cette naissance risquait de poser un problème, donc il a essayé de résoudre ce problème en s'invitant, enfin, un certain nombre d'initiatives, dont la plus connue est effectivement, ses invitations chez les Français moyens, enfin, et qui a continué. Alors, ça a suscité des sarcasmes dès que ça a été. Mais Valéry Giscard d'Estaing est resté persuadé que c'était une bonne idée et qu'il pense que ce sont finalement que c'est la perception par les médias finalement qui a déformé le sens de cette initiative.
Voilà. Mais il y a une certaine naïveté chez lui. Vous insistez d'ailleurs sur ce mot de naïveté. Quand il vous dit, voyez, moi je n'ai jamais déménagé. Est-ce qu'il fait la comparaison entre sa maison et la maison des Français qu'il reçoit?
Non, je crois qu'il est conscient des privilèges dont il a hérité, et il a essayé avec des fortunes diverses, disons, de combler ce, enfin, de résoudre ce problème. Le fait est que ça n'a pas été, et que ça a fini quand même par peser dans au moment de 81. L'image sociale, c'est sûr,
une des premières difficultés qu'il va rencontrer, qui n'était pas prévue, le nouveau choc pétrolier, qui ouvre une crise et qui creuse les inégalités. Mais vous faites surtout une histoire politique, Éric Roussel, et vous dites que les difficultés vont venir de son camp. Il a pris pour Premier ministre Jacques Chirac, personnalité bien différente de lui, qui va quitter Matignon en claquant quasiment la porte et qui va se présenter, on s'en souvient, à la mairie de Paris en 1977 contre le candidat de Valéry Giscard d'Estaing qui était Michel Dornano.
Pour que la Seine ne charrie plus de poissons morts, qu'on s'y promène et qu'on y puisse rêver encore, pour que Paris des artisans, pour que Paris des petits marchands, dans chaque rue continue comme avant. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac ou Paris,
Chirac ou Paris,
tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis.
Cette chanson en dit long, au fond, sur le Paris. Yes, et le Paris I de Jacques Chirac, le Paris du village dont Giscard d'Estaing aurait tendance à dire qu'il est passéiste. Pourtant, Jacques Chirac lui dit « chaque pas doit être un but ».
C'est peut-être un peu par antiphrase.
C'est le titre de ses mémoires. Ouais. Et il le considère comme un homme politique pragmatique, Chirac, ou comme un homme d'État ?
Il le considère, oui, comme votre expression est assez juste, comme un
c'est homme peut-être en dessous de ce qu'il vous dit, d'ailleurs.
Il considère qu'il a été finalement un bon maire de Paris. Il le dit, c'est reproduit dans le... Et que l'opération politique qui a consisté pour Chirac à se lancer à l'assaut de la mairie de Paris, en profitant d'un changement de législation, puisque jusque-là, le maire de Paris... Il n'y avait pas de maire de Paris, il y avait un président du conseil municipal, parce qu'il y avait des précédents historiques un peu inquiétants. Et donc c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a changé cet état de fait. Et comme vous l'avez dit, cette novation s'est retournée contre lui, parce que Chirac, avec ses conseillers, Marie-France Garot et Pierre Juillet, ont sauté sur l'occasion.
Mais au-delà, vous diriez que lui, c'est un homme de projet et qu'il ne s'intéresse pas assez... au moment politique,
Ça ça m'a beaucoup frappé en parlant avec lui. C'est un homme vraiment de projet. Il est très marqué aussi par son passage à Polytechnique. C'est vraiment une intelligence d'ingénieur. Il a une vision sérieuse des choses. Il est vraiment tourné vers l'avenir, ses enjeux. Et ça serait tout à fait abusif de dire qu'il s'est désintéressé complètement de la politique dite politicienne, parce qu'il fallait tout de même bien qu'il s'en occupe. Alors il avait un ami qui s'est éloigné après Michel Poniatowski, qui l'a épaulé dans la conquête du pouvoir, parfois avec des outrances, peut-être des maladresses. Mais aucune de ces initiatives de Poniatowski n'a sans doute été lancée sans l'aval de Valéry Giscard d'Estaing, mais le fait même, si vous voulez, qu'il ait besoin d'avoir recours à quelqu'un pour ce genre d'opération prouve qu'il s'y intéressait pas vraiment. C'est quelque... Par exemple, je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, enfin, vous étiez bien au courant de tout ce que faisaient Marie-France Garot, Pierre Juillet, l'entourage de Chirac. Il me dit, oui, j'étais au courant, mais je pensais que c'était pas de mon niveau, c'était pas à moi de m'en occuper.
Lui, il regardait le ciel. Et puis, de temps en temps, quand il était dans les campagnes, au moment des municipales en 1977, à Vassy, dans le bocage normand, où des chapiteaux sont plantés, dans un chapiteau Serge Lama, il y a souvent vers Verschuren et Serge Lama, faut pas oublier ça, dans le giscardisme, dans l'autre chapiteau, le président qui parle ainsi.
Il était une fois un agriculteur qui voulait améliorer sa maison. Il s'adressa donc à plusieurs maçons. Ces maçons se rangèrent en deux catégories. Les uns disaient que les murs étaient bons, la toiture acceptable, et qu'en perçant une fenêtre de plus, en faisant une salle d'eau et en ajoutant une chambre pour les enfants, on pouvait avoir une maison confortable. Les autres maçons pensaient le contraire. Il fallait abattre la maison pour tout reconstruire. On ferait alors quelque chose de totalement neuf. Au cours d'une réunion de travail, on s'aperçut que nos maçons étaient toujours d'accord pour détruire, mais qu'ils ne l'étaient plus pour construire. En vérité, ils avaient même des idées tout à fait opposées sur ce qu'il fallait faire. L'agriculteur se félicita que le désaccord apparût assez tôt. Car comment aurait-il fait, une fois sa maison rasée et les entrepreneurs se disputant autour, pour affronter l'hiver et le mauvais temps avec sa famille?
C'est le grand regret de Giscard de ne pas avoir pu apaiser la France et d'avoir face à lui une opposition inexpiable. Dans sa dernière interview la semaine dernière, liée à votre livre peut-être, Éric Roussel, qui paraît à l'Observatoire, c'était sur Europe 1. La France n'est pas impossible à réformer, mais il faut du calme et de l'apaisement.
Oui, il faut dire qu'il y a que Valéry Chardin s'est heurté à un obstacle, j'allais dire structurel, en ce sens que les institutions de la Ve République génèrent presque automatiquement une sorte de distinction, d'affrontement entre la majorité et l'opposition. Il aurait fallu sans doute changer au moins le mode de scrutin, c'est d'ailleurs ce que demandait la gauche. Alors ça, Valéry Cardassien y était opposé. Donc c'était le problème de Giscard, c'est que si réformateur qu'il se soit voulu, il est toujours resté finalement pour la gauche un traditionnaliste. On voit très bien que derrière ce qui s'est passé en 1980 avec le recul, bon, il y a eu les trahisons, etc. Mais il y a eu, à mon avis, un effet différé de mai 68. Et Valéry Giscard d'Estaing était complètement extérieur à cette idéologie de mai 68, ce que Mitterrand, lui, au contraire, a bien assimilé.
Merci d'avoir consacré cette demi-heure à France Inter, Éric Roussel.
Je suis heureux de vous parler et de vous dire que j'écoute Europe depuis avant que j'ai été président de la République.
Voilà, c'était la dernière interview de Valéry Giscard d'Estaing. Et chez vous, dans la tête au carré, Mathieu Vidard.
Oui, Jean, dans un instant, la question des déchets nucléaires. Voilà.